La France bouge continue avec la solution d'Elisabeth Assayag, Raphaël.
Oui, c'est la rentrée, mais aussi la rentrée des crèches avec les périodes, les fameuses périodes d'adaptation, dépose son enfant, se demande comment va se passer la journée. Elisabeth, vous avez trouvé une solution, c'est un label certifiant la bientraitance des enfants.
Et oui, pour la première fois en France, une collectivité s'engage dans l'obtention d'un label qui certifie la bientraitance des enfants au sein de ces crèches. Jusqu'à présent, il n'y a pas de label dans le domaine de la petite enfance. Pourtant, on y laisse son enfant toute la journée. On ne sait pas toujours ce qui va se passer. Va-t-il passer une bonne journée? Le personnel est-il toujours bienveillant? Ainsi, la communauté de communes Plaine et Mont-de-France lance ce label avec l'agence Crèche Bientraitante, ce qui marque une volonté d'optimiser cette culture de la bientraitance et de la prévention des risques de maltraitance au sein des crèches. Bonjour Anne Picard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice du label Crèche Bientraitance. Alors vous, ça fait 20 ans que vous travaillez dans le secteur. Vous avez travaillé notamment pour la bientraitance des personnes âgées. Comment vous est venue cette idée du label Crèche Bientraitance ?
Alors déjà, il est venu d'une première idée qui a été développer le label dans le secteur social et médico-social. Au niveau des établissements qui s'occupent des personnes handicapées et des personnes âgées.
Et vous vous êtes dit, je vais m'intéresser au milieu du domaine de la petite enfance.
Alors au départ, non. En fait, dès le départ de ce premier label, dès que je commençais sur ce premier label, Jean-Louis Durand, qui est le président de la communauté de communes Plaine et Mont-de-France, m'a interpellé sur deux points. Il me disait, en fait, il n'y a aucune obligation, contrairement au secteur social et médico-social, de mettre en place, ne serait-ce qu'une démarche qualité, alors qu'on y laisse quand même nos enfants
oui,
le matin.
Ça
peut paraître étonnant. Et puis, on est sur un public extrêmement vulnérable. Nos enfants sont très précieux.
Alors,
ça, c'est la première chose.
Alors, je vous coupe la parole. De quoi s'agit-il ? Il y a quoi dans ce cahier des charges du label ?
Comment est-ce que vous nous rassurez, nous,
voilà. Alors, d'abord, on travaille avec les établissements. C'est quelque chose de véritablement... c'est une culture à créer. Et ça ne peut pas être une formation de 2 jours ou 3 jours.
C'est
donc, on travaille sur le long terme. Donc, ça se passe en 6 étapes. La première étape, c'est un engagement. On présente les valeurs qui vont être derrière le label à l'ensemble de l'équipe. Parce qu'un label, ça s'obtient. Mais après, ça se porte hein, pour le conserver. Et ensuite, l'ensemble de l'équipe, et pas seulement le directeur de la crèche, s'engage dans le travail, parce qu'il va y avoir un véritable travail sur la bientraitance, qui est un concept très récent, qui date finalement que de 2007.
Ça veut dire que quand il y a le petit macaron sur la porte de la crèche, moi, parent, je suis rassurée, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce que vous vérifiez ?
Alors, vous savez que vous avez du personnel qui a été formé à la bientraitance, avec des ressources internes qui vont être pérennes. Vous savez qu'il y a de l'information, qu'on a réfléchi aux pratiques bientraitantes
avec
et qu'il y a un management bientraitant. Parce que pour être du personnel bientraitant, eh bien, il faut aussi qu'on se sente bientraité aussi par son encadrement.
Notre coach, Frédéric Mazella.
Bah, je trouve la démarche qualitative très intéressante. Vous avez aujourd'hui combien de crèches qui ont pu être labellisées ?
Eh bien là, c'est les troisièmes, c'est les trois premières
qui sont en
cours de labellisation. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore le label. C'est-à-dire qu'on est déjà allé les voir, on leur dit voilà, maintenant il va falloir aller mettre ça en place. Quand elles vont se sentir prêtes, c'est là qu'elles vont demander à être labellisées. Et là, c'est plus moi qui intervient.
Vous travaillez avec un organisme indépendant pour cette certification.
Oui, avec Bureau Veritas Certification. Donc, qui va... Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas être jugée partie.
Bien sûr.
Et donc, qui va assurer également un œil tiers et qui va, dans le temps, puisqu'il va faire un premier audit, un audit de suivi au bout de 2 ans, puisque le label est délivré pour 4 ans et un renouvellement au bout de 4 ans. Et lui va assurer la pérennité en fait, des engagements derrière, toujours avec son œil tiers.
Frédéric ?
Oui, c'est compliqué à obtenir. Ils peuvent espérer obtenir le label en combien de temps ? Enfin, le process est... Après, j'ai une autre question qui est qu'est-ce que ça ajoute comme valeur ajoutée ? Par exemple, est-ce que cette crèche-là va... parce que la plupart des crèches sont déjà pleines, en tout cas en région parisienne. Donc, qu'est-ce que ça va apporter aux crèches d'avoir ce label-là ?
D'abord, ça va...
Parce qu'il n'y a pas de place vide, c'est ça que vous voulez dire.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de place vide. Alors c'est vrai, on l'a vu sur les EHPAD qui étaient labellisés. Vous avez la liste d'attente qui s'allonge. Pourquoi ? Parce que quand on est proche, on est un parent, on est un enfant pour les personnes âgées. De quoi on a besoin ? quand vous déposez vos enfants à la crèche, monsieur, pour être serein dans le travail, vous avez besoin de transparence, vous avez besoin d'avoir la certitude également qu'on aime bien s'occuper de vos enfants. Deuxième chose aussi que le label certifie, c'est qu'en cas de maltraitance, tout le monde dans la crèche est engagé à le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas la loi du silence qui l'emportera.
Anne Picard, moi j'ai une question. Aujourd'hui, ça reste sur un territoire. Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à se multiplier et à aller dans d'autres départements et peut-être demain partout en France ?
Eh bien, j'espère. Non seulement vous disiez une première en France, mais c'est une première européenne. Et pourquoi la France ne serait pas précurseuse dans le domaine de la bientraitance et la prévention de la maltraitance ? On le voit bien avec les féminicides, ce qu'on entend sur les EHPAD. Et les crèches, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a des cas quand même.
Il y a eu des mouvements dans les crèches aussi, oui.
Bien sûr. Et je crois que c'est à notre génération d'actifs, de professionnels, d'acteurs institutionnels, de citoyens, nous emparer concrètement de sujets de société. Donc il est important qu'à partir de cet exemple de ces trois premières crèches...
Qu'elles puissent faire des petits un peu partout en France.
Eh bien, j'espère bien.
C'est le label qui sera donc mis en place dès ce samedi. Merci d'être venu.
Inauguration samedi.
Nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
La France bouge, c'est votre émission. Ici, les stars, ce sont ceux qui ont de bonnes idées, des projets, qui osent, qui font changer la société. Vous allez voir que c'est possible à des tas de niveaux. Aujourd'hui, on a eu envie d'aider notre prochain parce que c'est la journée de la charité. Bonjour Laurent Pivron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Merci à vous.
Vous, cette aide, vous la portez au quotidien avec votre association. Elle s'appelle Abordage. Abordage avec une apostrophe.
Oui,
Abord. Et âge de l'autre côté. Son but, c'est rompre l'isolement des personnes âgées. Et vous êtes en train de vous déployer dans un territoire bien particulier, puisque c'est le Sud-Sarthe. Racontez-moi comment vous avez décidé, vous, de vous emparer de ce problème.
Alors, j'ai suivi une formation d'animateur en gérontologie suite à un travail. J'étais intervenant, enfin, j'étais agent technique en EHPAD. Et j'ai eu envie d'acquérir des compétences pour pouvoir proposer aux résidents, aux personnes âgées, des animations afin de pouvoir enrichir leur quotidien.
Et là, vous avez fait une rencontre avec une formatrice.
Lors de cette formation, oui, j'ai rencontré une animatrice qui, dans Loire-Atlantique, avait travaillé pour une association qui développait un concept un petit peu similaire. C'est-à-dire un accueil itinérant et hebdomadaire pour des personnes âgées demeurant à domicile et donc âgées, des personnes isolées et fragilisées.
Et là, vous vous dites, il faut faire pareil. Vous décrochez votre téléphone, vous appelez votre épouse.
Exactement, oui, tout à fait. Le soir même, je rentre et je dis à ma femme, eh bien, c'est ça que je veux développer dans notre secteur, chez nous, au Sud-Sarthe. Et donc, après, c'est Abordage Sud-Sarthe, exactement, le nom de l'association. Il a fallu à peu près 4 ans de recherche, de partenaires.
On est en 2015, quand
oui,
ça démarre, c'est ça ?
Oui, en 2015. Il a fait, oui, à peine 4 ans. Enfin, l'idée, déjà, moi, je l'ai eue en 2013, exactement. J'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai écrit le projet à partir de 2014, à la fin de ma formation. Et il a fallu à peu près, oui, pendant 3 à 4 ans, j'ai recherché dans un premier temps à pouvoir œuvrer avec une association existante, sous la bannière d'une association existante. Il ne s'avère que les associations, j'étais un extraterrestre un petit peu quand j'ai expliqué mon projet. Et donc,
pourquoi ? Parce que vous, ce que vous faites, c'est aller chercher les gens chez eux.
On peut aller chercher les gens.
Quand ils sont isolés.
Voilà.
Et vous faites en sorte d'animer un petit peu leur quotidien, avec des après-midi notamment.
Tout à fait. Moi, je suis l'animateur et on propose des après-midi de 14h à 17h. On fait de l'exercice physique sur chaise. Des activités mémoire diverses et variées, à l'aide éventuellement pour les personnes qui présentent des déficiences visuelles d'un vidéoprojecteur. On réalise des pâtisseries que l'on partage à la fin de l'après-midi, parce que aussi on partage un goûter avant de rentrer chez soi.
On fait des sorties également.
On va au cinéma et on s'est également rendu et on a enregistré 2 émissions dans une radio locale. juste à côté de chez nous, radio qui s'appelle Radio Prévéa, une radio locale qui était ravie, qui est ravie de nous.
Et aujourd'hui, vous êtes sur Europe 1.
Et aujourd'hui, sur Europe 1.
Et Elisabeth, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça touche beaucoup de monde, hein, l'isolement aujourd'hui en France.
Voilà, quelques chiffres qui font froid dans le dos, hein, que je vais vous donner. Un Français sur 10 vit dans l'isolement. Ce sont des chiffres qui sont stables dans la durée, mais ce sentiment de solitude, elle change de visage et ça touche désormais toutes les catégories sociales, hein, c'est ce que nous dit l'INSEE, sont isolés les individus de plus de 16 ans qui disent n'être en contact avec un ami ou un membre de leur famille qu'une fois par mois, par téléphone ou messagerie instantanée inclus. Plus grave, ils sont 10% à ne rencontrer un membre de leur entourage ou de leur famille au plus une fois par mois. Donc voilà, l'isolement, ça touche tout le monde.
Et quand on aide les personnes âgées, la charité, ça commence parfois par effectivement les sortir de ce fameux isolement. Je crois que vous avez trouvé pas mal de structures, hein, qui les aident, qui leur tendent la main.
Alors nous, en plateau, on a Abordage. J'ai trouvé Voisinage, qui a été mis en place par les petits frères des pauvres. L'idée pour Voisinage, c'est voisin-âge, hein. L'idée, c'est de mettre en relation les habitants d'un même quartier avec les personnes âgées, en privilégiant la proximité, les affinités, et puis qu'ils puissent échanger, hein, en fonction de leur goût. Il n'y a pas d'engagement, c'est pas on va venir une fois par semaine à telle heure. Non, chacun fait comme il peut et comme il veut. Vous avez à Paris, Paris en compagnie. Là, c'est une personne qui décide d'accompagner un senior, une personne âgée, à un rendez-vous médical par exemple, ou un rendez-vous administratif, ou simplement pour aller prendre un café. Comment ? Eh bien, via une application, ces bénévoles peuvent choisir autour de chez eux les seniors qui ont besoin d'aide, les créneaux horaires qui leur conviennent. Aujourd'hui, il y a déjà 470 seniors de plus de 65 ans qui ont pu bénéficier de Paris en compagnie depuis le début de l'année.
Ouais, on le voit, ce sont les petites gouttes comme ça, hein, qui font les grandes rivières. On a l'habitude de le dire, mais c'est la vérité. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative et du parcours pour Abordage, pour Abordage Sud-Sarthe, je précise.
Alors c'est nécessaire et c'est formidable de pouvoir trouver des moyens justement pour rompre l'isolement. Enfin, joignons-nous sur une des choses qui nous motive énormément aussi sur Blablacar, c'est que justement on permet aussi de la mobilité à des personnes qui sont parfois dans des zones extrêmement reculées, assez loin des gares ou assez loin de d'autres moyens de transport et qui peuvent, grâce au covoiturage, retrouver une manière d'aller voir leurs proches assez facilement. Donc ça, c'est un axe sur lequel on travaille aussi. J'avais une question, deux questions par rapport à l'association, à Abordage. Savoir si et comment c'était réplicable dans d'autres régions, parce qu'il doit y avoir une question de financement aussi, évidemment, toutes les ressources qui sont déployées pour ces personnes-là. Et mon autre question, c'est est-ce que vous avez un travail autour de la fracture numérique pour savoir comment reconnecter parfois les personnes âgées, ne serait-ce qu'à leur famille, par les nouvelles technologies, parce que justement, quand on ne sait pas bien les manipuler, on se retrouve isolé de facto parce qu'on ne sait pas utiliser ces nouveaux moyens de communication.
Oui. Laurent Pivron.
Oui, certainement. Je pense qu'on va s'orienter vers ceci. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt très, très encourageant, c'est qu'on accueille des personnes qui même à 80, par exemple, 85 ans, 82 ans, qui pianotent et qui pianotent sur Internet et qui communiquent avec nous par l'intermédiaire de Facebook, qui répondent à nos messages. Oui. Ou qui participent à l'activité et qui postent sur et donc il faut développer par rapport à la fracture numérique. Je pense que ce sera des idées à développer par la suite. Nous, la première idée, c'était de développer un accueil d'après-midi, les recevoir, mais on a plein, on bourgeonne d'idées pour pouvoir continuer que les gens puissent se rapprocher verbalement. Et
dites-moi, est-ce qu'il y a des territoires, pour rejoindre la question de Frédéric, est-ce qu'il y a des territoires reculés qui sont plus oubliés que d'autres, où cette problématique-là, elle est plus vivace qu'ailleurs ? C'est le cas en Sud-Sarthe, par exemple ?
Oui, tout à fait. Et puis, on a fait une étude sur le Sud-Sarthe, et il s'avère qu'un pourcentage important de personnes âgées, enfin, en Sud-Sarthe, on a eu un pourcentage important de personnes âgées. C'est assez récurrent, mais on va surtout pas les déraciner. Au contraire, on va leur permettre de rester le plus longtemps possible chez eux. Pour ça, il faut mettre des choses en place. Il y a déjà des associations qui mettent des choses en place par rapport à l'aide au repas, par rapport à l'aide à domicile. Et
c'est nous, tout un écosystème
plus,
hein, finalement qui leur...
Plus, c'est le, voilà, c'est le lien social, recréer du lien social et leur montrer qu'elles ont encore leur place dans la société. Et quand on entend, par exemple, que moi, mon dimanche, c'est le mardi, parce qu'à m'enseigner, c'est le mardi. Moi, mon dimanche, c'est le mardi. Je pense qu'on a gagné, notre pari, votre défi.
Voilà. Et il est important ce défi, vous avez raison. On reste ensemble et on continue à parler charité aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Aider son prochain, c'est aussi rendre service autour de soi. Ça commence parfois par ses voisins. C'est pour ça que le réseau social Ensemble, sans le E à la fin, a été créé. À tout de suite.
C'est la Journée internationale de la charité, on en parle dans La France Bouge. Dites-nous comment vous tendez la main à votre prochain, racontez-nous vos belles histoires en nous appelant au 39 21, 50 centimes la minute ou en nous écrivant sur Twitter, @ou #EuropeRaphaël.
Oui, Christine et Jean-Pierre sont déjà en attente sur le 39 21. La charité, c'est vrai que c'est un mot dont on connaît mal le sens finalement, mais quand on se penche sur la vraie définition, on s'aperçoit que c'est simplement, effectivement, vous le disiez Céline, tendre la main à l'autre, l'aider, bref, être utile à son prochain, c'est ce que fait le réseau Ensemble. Bonjour Charles Berdugo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé ce réseau social en 2010, mais c'est vrai qu'il a beaucoup évolué depuis. Racontez-moi quelle était l'idée de départ.
L'idée de départ, c'était de voir comment on pouvait cristalliser un peu cette solidarité avec des outils respectueux de la vie privée. Il y avait l'enjeu du digital, hein, du numérique, au service du lien social et de montrer comment ce digital, dès lors qu'il est respectueux de la vie privée, il cristallise toute cette envie de créer, de générer de la solidarité. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en place. Il est difficile de toquer à une porte ou d'accoster une personne. Les outils dont on dispose pour créer du lien sont intrusifs et difficiles à utiliser, parce qu'intrusifs. Le digital a cette force, c'est que je peux indiquer dans mon immeuble ou dans mon quartier que je cherche quelqu'un pour me prêter une perceuse ou arroser mes plantes en mon absence. Personne n'est obligé de me répondre.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'ouvrir la porte de chez soi, d'aller taper à la porte du voisin. On préfère lui envoyer un message.
Mais complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce digital se prolonge dans la vraie vie. C'est que lorsque je cherche cette personne pour venir m'aider à monter mon armoire ou à réparer mon robinet ou toute forme d'aide, eh bien, il n'est pas obligé de me répondre. Mais dès qu'il veut me répondre, nous devons nous rencontrer. Et donc, ce digital a été la petite clé qui a permis, tout en respectant la vie privée de l'autre, sans toquer chez lui, de pouvoir le solliciter. Et c'est là qu'on voit combien on dément cette France individualiste, etc. Mais la réalité, c'est que dès qu'on met en place des outils respectueux de la vie privée, il y a une dynamique incroyable qui se joue dans les immeubles et dans les quartiers.
Vous étiez, vous, déjà bénévole hein, avant de monter le réseau. C'est aussi ça qui vous a donné cette envie. On se dit finalement, on va aider les enfants déshérités dans des pays parfois loin de chez nous. On peut aussi exprimer cette solidarité, cette charité à la porte d'à côté.
D'abord, parce qu'effectivement, ce lien social commence par son habitat, son immeuble. On a beaucoup travaillé sur...
Et ça, on l'a oublié.
Pardon ?
Et ça, on l'a oublié.
Ce lien social de proximité qui peut avoir une portée beaucoup plus globale, qui dépasse la proximité, celui-là, on l'a oublié. Donc, c'est ce rappel à l'hyper-proximité, l'immeuble, le quartier. C'est mettre en place ce réseau social qui permet à chacun de devenir pour ce qui l'intéresse. Et évidemment, de pouvoir, sans être un bénévole attitré, obligé de répondre à un certain nombre de demandes, là, vous répondez quand vous pouvez, si vous pouvez. Et quand vous répondez, la personne à aider, elle est juste dans votre immeuble ou dans l'immeuble d'à côté. Et c'est ça le point intéressant, c'est qu'on voit combien ce bénévolat qui est un peu en crise, ce bénévolat peut être contourné par une solidarité qu'on appelle une solidarité d'opportunité. De temps en temps, quand je peux, je le fais. Et quand on voit le nombre de voisins qui peuvent le faire, évidemment, on fait un pilote énorme et on se rend compte que 10 villes mobilisent tout un ensemble de besoins de liens sociaux. Et on répond à 80% de besoins exprimés par des personnes âgées. On l'a fait avec la CNAV. 80% des besoins de liens sociaux exprimés par des personnes âgées ont été servis par les voisins.
Tout est gratuit et vous avez, je crois, 260 000 inscrits aujourd'hui, c'est ça ?
Exactement.
C'est énorme.
Écoutez, c'est en développement important, puisque nous sommes en train maintenant de passer de l'échelle des
villes. Avec plusieurs applications, c'est ça aussi.
On a deux applications, celle qui adresse le quartier, la ville, c'est qu'il adresse les acteurs de l'habitat, puisque les bailleurs sociaux sont aussi intéressés par le déploiement de ces solutions de solidarité au sein de leur habitat. Créer, pacifier l'habitat est un enjeu énorme pour un bailleur social, même pour un syndic. Et évidemment, on a les deux pieds, l'habitat et évidemment le territoire.
Elisabeth, ça se développe, ces plateformes, ces réseaux d'entraide?
Oui, tout à fait. Hein. Mon super voisin, vous connaissez? Et ben c'est un peu comme une application de rencontre. Hein. Mon super voisin vous permet de matcher, comme on dit, hein, de trouver le profil qui correspond avec les voisins qui pourront répondre à votre demande de service. Si vous trouvez le super voisin, ben vous payez et l'argent sera versé une fois le service rendu. Vous avez Stouty. Stouty, c'est une start-up
qu'on connaît bien, qu'on a reçue ici sur Europe 1.
Tout à fait. Je vous rappelle un peu, pour ceux qui n'ont pas entendu, que cette start-up repose essentiellement sur le service entre personnes, des réparations, du bricolage, des services, des déménagements via son outil de géolocalisation. Vous avez encore Allo Voisin. Là aussi, c'est pour louer du matériel, des services entre voisins. Là, ça se fait contre rémunération et il y a tout de même une commission de 15% prélevée sur les paiements effectués en ligne.
Frédéric Mazella, le coach.
Alors, j'ai quelques questions sur l'utilité de l'application. Elle est donc principalement basée sur le fait qu'on peut communiquer avec ses voisins et poser des questions et demander de l'aide.
Alors, effectivement, donc
les
exemples qui viennent d'être cités ne s'inscrivent pas du tout dans notre logique.
Non, parce que
nous, on veut être un réseau social complètement indépendant, pas de monétisation.
Voilà, gratuit. Vous êtes gratuit.
Mais je peux vous demander de me prêter une perceuse, par exemple.
Complètement, bien sûr. Et évidemment, là où on est vraiment en faux par rapport à tous ces autres modèles, c'est qu'on n'est pas dans la publicité, ni dans la vente de données ou autre. Donc on est un réseau social très institutionnel. Mais l'objet, c'est de permettre à ces acteurs de la solidarité, que sont d'abord la collectivité locale, qui est le bailleur, que sont tous ces acteurs de la solidarité, de venir s'y retrouver dans ce réseau sans être gênés par des décalages d'intérêts, etc. Et donc, nous, notre modèle économique, il est dans le fait que la collectivité, la ville, le CCAS d'une ville, un département qui porte le budget de solidarité, un bailleur social, c'est lui qui est monétisé, c'est lui qui dispose d'une application B2B, une application professionnelle, qui va lui permettre de piloter cette solidarité sur son territoire ou son patrimoine immobilier. Et donc, du coup, la transaction entre les voisins est gratuite, elle est institutionnelle, elle n'est pas gênée par de la pub ou par la crainte de voir ses données s'envoler et être vendu. Et évidemment, on vient vraiment apporter un service entre guillemets public par cet accompagnement digital.
Ce que ça montre aussi, même si effectivement il y a des propositions qui sont monétisées, hein, c'est qu'il se passe quelque chose en tout cas sur ce marché-là, c'est qu'il y a un réel besoin.
Mais la monétisation permet aussi de sortir de l'isolement, c'est une façon comme une autre.
Complètement.
Frédéric ? Il y avait une autre question.
Le respect de la vie privée, vous en parlez beaucoup. Du coup, qu'est-ce qui différencie ce réseau-là d'un réseau comme ceux qu'on peut connaître, d'autres réseaux sociaux, par des applis extrêmement performantes et qui, pour le coup, ont des milliards d'utilisateurs?
En fait, il y a un grand enjeu dans cette relation de voisinage quant au respect, évidemment, de la vie privée. La relation de voisinage est complexe, elle est faite de confiance et de défiance. Et donc, pour nous, il y a le contrôle de l'adresse de ces personnes, pas de tous. Ceux qui veulent suivre leur contrôleur d'adresse est évidemment possible. Et donc, ça permet évidemment d'ajouter à cette relation de voisinage une dose de confiance importante. Évidemment, les données ne sont pas commercialisées. Ça, c'est de nos CGU déposés auprès de la CNIL. Ça, c'est un point vraiment majeur. Mmh. Et donc, c'est un point de différenciation. D'autres, naturellement, le font. Mais nous apportons en plus, c'est le dernier point, c'est cet effet de recommandation. À savoir, lorsqu'une personne âgée a sollicité de l'aide auprès d'une institution, ça peut être une association, ou ça peut être la ville, ça peut être le bailleur, et que ce service est rendu par un voisin, alors nous allons apporter une recommandation de ce voisin. Et nous apportons cette dimension de recommandation d'un voisin. Et l'idée, c'est de bâtir un réseau de confiance où le voisin qui a rendu service est recommandé 5 fois, 6 fois, 7 fois, et de pouvoir évidemment créer une véritable dynamique sociale. Et
on va poursuivre le débat dans quelques minutes. Je vous propose de rester avec nous sur Europe 1.
Nous sommes le 5 septembre, c'est la journée internationale de la charité. On parle d'entraide, de mieux vivre ensemble sur Europe 1. Et vous pouvez nous envoyer vos messages via Twitter, @Europe 1, nous appeler également au 3921, Raphaël. Quand il s'agit d'aider les autres, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. C'est le cas de celle développée à Montreuil par le groupe italien Generali. Il a lancé une fondation, The Human Safety Net, qui se déploie chez nous, à Montreuil notamment, où un incubateur a vu le jour. Bonjour Frédéric Rose Maléfant.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable de ce projet. La fondation, elle a été lancée en 2017 et l'idée, c'est tout simplement de venir en aide aux personnes les plus vulnérables et à partir du principe que finalement, tout le monde a le droit de développer son potentiel.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment de permettre à des réfugiés, donc des personnes qui sont légalement sur le territoire, de pouvoir créer leur entreprise ou leur association. On est convaincu que pour certaines personnes qui étaient entrepreneuses dans leur pays d'origine, ben voilà, l'idée c'est de leur remettre le pied à l'étrier, l'entrepreneuriat. Et puis pour d'autres, ben c'est une réflexion voilà, qui a surgi au long de leur parcours d'exil, d'asile, et un moyen pour eux de créer leurs propres moyens de ressources, de créer de la richesse aussi, et de s'intégrer professionnellement de façon... et d'acquérir de l'autonomie, surtout.
Ces personnes, elles arrivent, vous l'avez dit, avec un bagage parfois. Oui. Elles ont une expérience, elles ont un passé, elles ont un vécu. Elles ont à cœur soit de tourner la page et de faire autre chose, soit de recommencer ce qu'elles savaient faire ailleurs. Comment est-ce que vous intervenez ?
En fait, on a tous les cas de figure, parce qu'on intervient absolument sur tout type de projet, de porteurs de projet, hommes, femmes, jeunes, plus âgés. L'idée, c'est vraiment de les accompagner sur la réflexion à l'entrepreneuriat en France, de leur donner le maximum de codes, de leur rouvrir un réseau professionnel. Il faut bien avoir en tête que quand ils quittent leur pays, ils perdent tout. Ils perdent leur réseau personnel, ils perdent leur réseau professionnel. Et nous, ce qu'on peut faire en tant que grande entreprise, c'est vraiment voilà, de leur ouvrir des réseaux, de leur expliquer voilà, comment ça se passe en France, comment on peut faire, sur quel levier on peut activer. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Certains, effectivement, étant entrepreneurs, pour nous, ce n'est pas du tout, c'est pas du tout une obligation, loin s'en faut. On a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver du travail, voilà, tout simplement en France, et du coup, qui pensent à l'entrepreneuriat comme étant un moyen de s'insérer et puis de survivre, de vivre en France.
Donc l'incubateur, lui, il a ouvert ses portes assez récemment, hein, c'est oui. Juin 2019 à Montreuil. Oui. Qu'est-ce qu'on y fait dans cet incubateur ? Qu'est-ce que vous leur apportez ? Vous avez une trentaine de personnes que vous aidez.
Alors,
au départ, incubateur, en tout cas.
Alors, cet incubateur, en fait, il va démarrer concrètement, réellement, à partir du mois d'octobre, où une première promotion de futurs entrepreneurs, en tout cas on espère, une quinzaine de personnes, c'est notre objectif, va commencer à réfléchir pendant 9 mois, chacun à son projet entrepreneurial. Là en ce moment, avec notre partenaire qui est La Ruche, voilà, nous recrutons, c'est-à-dire que voilà, La Ruche s'adresse à des associations du territoire, aux cours de français de la ville de Montreuil, voilà, fait savoir sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., qui a possibilité de rejoindre cet incubateur à Montreuil pour des personnes qui ont le projet, mais qu'ils soient matures ou pas. Ça peut être un projet voilà, très, très jeune. Et puis, ça peut être des projets aussi qui sont beaucoup plus matures. Mais de toute façon, ils ont besoin d'un accompagnement. Nous, Generali, ce qu'on sait faire, c'est on sait mettre autour d'une table, on sait rassembler voilà, différents acteurs. Là, on s'appuie sur une association qui s'appelle La Ruche, qui est experte dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, c'est eux qui font pour notre compte. Nous, on n'a pas vocation à faire à la place d'eux, mais à faire avec. C'est vraiment notre objectif.
Frédéric Mazella, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative montée à Montreuil, cet incubateur ?
Je pense que c'est formidable parce qu'effectivement, on ne se rend pas bien compte de la difficulté avant de l'avoir possiblement vécu, de s'installer dans un autre pays en ayant perdu, comme vous dites, toutes les connexions qu'on pouvait avoir avant. Pas la même culture, pas la même langue, enfin, s'adapter un petit peu à tout, c'est forcément extrêmement déroutant et il faut trouver les chemins pour se raccorder à la société. Donc c'est formidable et l'insertion professionnelle est un excellent outil pour cela. Et l'entrepreneuriat, au-delà de ça, est aussi une manière d'exprimer sa vie et sa personnalité qui fait que forcément ça va être intéressant. Alors comment vous financez aujourd'hui exactement et comment un projet comme ça peut faire d'autres petits de manière à justement avoir une forme d'impact et devenir vraiment un point important dans un parcours possible de quelqu'un qui est réfugié.
Alors, juste avant de répondre à vos deux questions, par rapport à ce que vous disiez en termes de difficultés, effectivement, ils ont les difficultés qui sont celles de la langue et de l'accès au réseau,
de la connaissance des codes. Qui sont des barrières supplémentaires.
En revanche, ils ont des compétences qui sont, enfin, que leur exil vraiment à renforcer certainement, c'est la capacité à prendre des risques, c'est la capacité de la résilience, c'est la capacité à affronter tous les obstacles et à se relever. Et ça, par contre, ils en ont déjà fait la preuve. Donc, eux partent avec ça. En revanche, ce qui leur manque, effectivement, c'est souvent l'accès à la langue et puis l'accès au code de la société. Pour répondre à votre question sur le financement, c'est nous, la fondation de Générer, donc The Human Safety Net, qui finançons quasiment à 100%.
Qui existe dans différents pays, mais qui, en France, prend cette forme-là.
Tout à fait. Alors, on déploie deux programmes en France, dont celui-ci. Voilà, tout à fait. Et c'est une fondation, effectivement, internationale. Donc, on est quatre pays aujourd'hui, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et nous, à travailler auprès des réfugiés qui souhaitent se lancer sur l'entrepreneuriat.
Elisabeth, la charité, c'est aussi aider les enfants, par exemple. Et on en revient à cette problématique d'apprentissage, apprendre à lire.
Oui, apprendre à lire ou leur rendre visite à l'hôpital. Lire et faire lire, c'est un programme éducatif, c'est une association française qui existe depuis 20 ans et donc qui développe le plaisir de la lecture, la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants. Ou encore chaque soir, vous avez les bénévoles de l'association Les Dormeuses qui se relaient auprès des enfants à l'hôpital, parce que ça aussi, c'est la charité.
On reste ensemble et on parle charité aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge continue avec la solidarité qui est à l'honneur en cette journée internationale de la charité, Raphaël.
Et nous sommes avec Frédéric Maléfant, responsable du déploiement de la fondation The Human Safety Net, qui a mis en place un incubateur à Montreuil pour accompagner des réfugiés vers l'entrepreneuriat. Charles Berdugo, président fondateur d'Ensemble, le premier réseau social français d'entraide et d'information pour mieux vivre entre voisins. Et Laurent Pivron, fondateur de l'association Abordage Sud-Sarthe, destinée à rompre l'isolement des personnes âgées. Je voudrais qu'on écoute ce que pensent les gens dans la rue, ce que Laetitia Farine est allée rencontrer quand on leur parle de charité.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans. Alors en fait, c'était un stage dans le cadre du lycée. On doit faire une semaine dans ce qu'ils appellent le caritatif. Moi, j'ai fait au Resto du Cœur. Bah, ça m'a appris beaucoup quand même. De faire face aux personnes qui en bénéficient, en fait, c'est gratifiant dans le sens où bah, nous, on les aide. Et en même temps, on se rend compte que la vie n'est pas si facile et qu'en plus, il y a de plus en plus d'étudiants qui en bénéficient.
Ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience, y compris quand on est jeune, Frédéric ?
Ah, complètement. On sait que vraiment, dès qu'on parle de notre programme d'aide aux réfugiés à des jeunes, on a un engouement qui est réel, qui est là. Nos plus jeunes collaborateurs chez Generali ont l'opportunité de pouvoir s'engager et d'apporter leurs compétences aux réfugiés. Je peux vous dire qu'ils sont nombreux, qu'ils sont extrêmement sensibles à ça et très fiers de pouvoir contribuer.
On a une réaction sur Twitter, je crois, Céline, c'est Marc ?
Oui, Marc, il nous dit, on dit souvent qu'en ville, on est plus individualiste qu'à la campagne.
Alors, qui a envie de répondre ? Laurent Pivron, peut-être ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ?
Alors, nous sommes en campagne et je ne suis pas persuadé. L'individualisme, malheureusement, je pense qu'il se généralise un peu. Mais justement, on peut contrecarrer par toutes les actions là, que présentées aujourd'hui et de tout âge. Les générations futures prennent conscience aussi de l'importance aujourd'hui de développer, même on a des outils qui permettent de communiquer sans forcément se rencontrer, mais on sent en ce moment un besoin, un retour en arrière. Et même entre les surtout les jeunes, et par exemple les personnes âgées, nous on aime bien proposer des échanges intergénérationnels avec des collégiens et des personnes âgées, et on voit que c'est très porteur et chacun prend vraiment beaucoup de plaisir à se rencontrer.
Eh bien justement, on va changer de génération et on va voir ce qu'en disent ceux qui ont un peu plus que la jeune fille qu'on vient d'entendre.
Bonjour, je m'appelle François et j'ai 66 ans.
Pourquoi vous avez décidé de vous engager dans des associations ?
Oh, il faut s'occuper, mais c'est surtout le besoin de se sentir utile, quoi. Sinon, on sert à quoi ? On vient en aide aux déficients visuels. Donc, le maître mot de notre association, c'est agir pour l'autonomie. Que vous retrouvez des gens qui sont dans des situations difficiles, physiquement, des personnes handicapées, et que vous voyez le moral que ces personnes ont, Après, nous, valides, on n'a plus à se plaindre, quoi. La vie est forcément belle. Donc, ça, ils m'apportent plus que moi, je leur apporte, en fait.
C'est un beau message, hein. Ils m'apportent plus que ce que je leur apporte. Qui a envie de réagir à ça ?
C'est souvent des témoignages qu'on a, nous, nos collaborateurs, qui contribuent, qui nous disent, mais finalement, moi, au départ, d'abord, j'avais peur de ne pas lui apporter suffisamment. Je me disais que tout devait venir de moi. Et qu'en fait, tous les bénévoles au sein de l'entreprise nous disent, mais finalement, cette personne, moi, m'a apporté beaucoup.
On donne,
plus.
Mais on reçoit.
C'est extraordinaire. Ouais.
Frédéric.
Oui, ça me rappelle une citation de Galilée que j'ai très souvent en tête dans toutes mes interactions. Qui est « Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'avait rien à m'apprendre ». Et en fait, ça permet d'aborder l'autre dans l'échange directement, plutôt que dans une communication qui serait uniquement à un sens. Oui. Et là, on se rend compte qu'effectivement, les interactions humaines, c'est toujours de sens et qu'on a toujours chacun des choses à s'apporter et des choses à s'apprendre.
J'ai un bel exemple d'une personne qui s'appelle Solange, qui est réfugiée de République démocratique du Congo et qui veut se lancer dans un restaurant solidaire et qui veut mettre en valeur sa cuisine congolaise. Et une personne, Florence, une collaboratrice de Generali, voilà, qui lui apporte au quotidien une aide incroyable. Et Solange qui lui fait découvrir son pays, sa culture, sa cuisine. Ben voilà, je dirais qu'après ce temps de bénévolat qu'on leur propose de faire, je sais que voilà, c'est une vraie rencontre et que ça va se poursuivre bien au-delà de l'entreprise.
Et des rencontres, il y en a à tous les étages finalement, Charles.
Oui, et puis pour ce qui me concerne, le constat de voir combien le digital peut donner une ampleur à ces actions qui sont peut-être individuelles. Je donne un exemple, à Marseille, une femme a pris l'initiative sur le réseau d'organiser et d'émettre un message pour dire comment on pourrait s'organiser à cuisiner les plats ou les denrées qui arrivent un peu à préemption. Et peut-être les remettre entre les mains de SDF et autres. Et ben aujourd'hui, c'est plus de 90 familles qui se réunissent et qui cuisinent chacun ses denrées. Et puis le secours catholique qui est présent à Marseille s'est fait inviter à la danse. Il vient retirer tous ses plats fabriqués et les distribue. Voilà des initiatives que le numérique porte, auquel le numérique apporte une ampleur intéressante. Et qui peuvent être, qui partent du local. Et encore une fois, l'initiative, les rencontres entre les gens humaines étaient intéressantes et l'outil le facilite et lui donne une grande ampleur.
Et oui, ce sont des petites choses qui font qu'on peut aider son prochain. Ça commence, et on nous l'a souvent dit ici sur Europe 1 dans cette émission, ça commence tout simplement, y compris, vous parliez des sans-domicile fixe, par un bonjour et par un regard. C'est aussi ça, commencer pour aider les autres. C'est simple, mais c'est efficace et c'est essentiel. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter vos différentes initiatives aujourd'hui sur Europe 1.
Merci.
Merci.
Il est 13h46.
Europe 1.
Dans quelques minutes, une entreprise qui travaille le bois depuis 1975 et en fait de véritables œuvres d'art, le puzzle Michel Wilson et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de retrouver l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est la maison de puzzle Michel Wilson. Bonjour Julien Vagnan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui l'avez reprise depuis 6 ans, hein, je crois, maintenant.
C'est ça.
Vous allez nous raconter comment, évidemment. Mais d'abord, je voudrais qu'on remonte en 1975. Michel Wilson se lance dans le puzzle, mais bon, on va dire que ça n'est pas du tout une débutante.
Non, ce n'est pas une débutante. Elle a déjà un peu de métier. Elle travaille pour une marque qui s'appelle Vera. Donc, qui fait des puzzles en bois découpés à la main.
Et qui est un des principaux acteurs sur le marché à l'époque.
Peut-être le seul déjà. Et en fait, c'est un métier qui remonte à 250 ans. Donc, Vera était l'entreprise qui, en fait, perpétue le savoir-faire originel des puzzles, donc la découpe avec une scie à chantourner de bois.
Et alors, qu'est-ce qui la décide à cette époque-là à finalement se lancer dans sa propre aventure personnelle ? Pourquoi est-ce qu'elle elle se dit je vais voler de mes propres ailes, je vais faire mes puzzles originaux en Bourgogne ?
En fait, la disparition de Vera, donc son entreprise, son employeur disparaît. Elle est sur le carreau, elle retourne en Bourgogne chez ses parents, je crois. Donc elle se lance, elle décide de pousser un peu la technique dans un côté un peu artistique. Donc elle se dit, découper à la main, c'est long, c'est laborieux, c'est cher, c'est hors marché par rapport à la technique en carton. Et donc elle se dit, je vais faire des découpes artistiques pour suivre l'œuvre d'art. Donc Elle part d'images d'œuvres de Van Gogh, de différents artistes qu'on connaît tous, et elle va découper en fait le puzzle en suivant l'image, en suivant les visages, en suivant les courants des rivières, en ayant sur les Van Gogh, en insistant sur le trait de pinceau de Van Gogh qui est si caractéristique. Et donc elle fait un jeu artistique autour de l'œuvre d'art. Elle crée le puzzle d'art.
Ça veut dire que chaque puzzle devient quasiment unique.
Oui, c'est une pièce unique.
Elle réalise des collections aussi hein, pour les musées, pour le luxe.
Oui, alors effectivement, à l'origine, effectivement, c'était des travaux plutôt sur commande, surtout pour Vera, je pense, avec des marques de luxe et aussi des marques assez grand public.
Alors, on va sauter quelques étapes. Vous arrivez dans l'aventure en 2013. Pour développer l'entreprise, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui vous plaît?
Moi, je recherchais une entreprise à reprendre, une PME avec un style particulier, avec un savoir-faire différencié et donc un potentiel de développement lié à ce savoir-faire différencié. J'ai trouvé en fait le label Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label justement qui identifie les savoir-faire rares en France. Et donc, je suis tombé un peu par hasard sur les puzzles Michel Wilson. J'étais amateur de jeux en général. Après, c'est une histoire de rencontre, parce que forcément, dans une reprise, il y a quelqu'un qui reprend et quelqu'un qui cède. Et donc, j'ai rencontré Sophie Le Laprune, avec qui on s'est bien entendu.
Et qui avait repris, elle, en 1997.
C'est ça, voilà.
Le puzzle, c'est quelque chose de particulier. On en a tous fait, hein, étant enfant, certains enfants adultes aussi. Y a un lien affectif?
Le puzzle, effectivement, c'est une activité qu'on commence à faire jeune. Les parents trouvent que c'est bien que leur enfant fasse bien des puzzles, fasse des puzzles avec beaucoup de pièces. Donc, on reste attaché à cette origine-là du puzzle d'enfant. Mais c'est aussi un jeu pour les adultes, un jeu qu'on peut faire seul ou à plusieurs. Et souvent, c'est restreint au plaisir solitaire. En fait, dans les pays anglo-saxons et en général, le puzzle, c'est un jeu à plusieurs. Parfois, on dit qu'un puzzle de 1000 pièces, c'est un jeu jusqu'à 1000 joueurs. C'est un peu extrême, mais effectivement, c'est souvent un moment de rencontre. Et l'image du puzzle, on assemble les pièces, chacun assemble ses pièces pour faire une image commune. C'est
ce que vous essayez de changer, justement, ce regard sur le puzzle, ici, chez nous, en France. Montrer que ce n'est pas une activité qu'on fait seule dans son coin et qu'on peut justement le rendre plus ludique.
Alors, nous, on essaye, effectivement, tous les artisans, c'est vraiment une entreprise humaine avec des gens qui travaillent à la main, justement, ces puzzles. On a cet objectif de faire un puzzle différent, artistique, qui véhicule une émotion en le découpant et en le recomposant.
Et ils sont là, hein, ces puzzles. Vous pouvez les voir sur europe1.fr, évidemment. Ce sont de véritables œuvres d'art, je le disais tout à l'heure. En bois, des puzzles en bois, ça aussi, c'est une spécificité.
Oui, la matière, effectivement, c'est une particularité. C'est des puzzles en bois.
Que dit Frédéric, notre coach?
Oui, alors c'est effectivement vrai qu'on fait des puzzles quand on est petit et peut-être moins quand on est plus grand, alors qu'en fait, il y a quand même évidemment différentes difficultés dans les puzzles. Et puis en plus, ça peut être un jeu de société, carrément. Est-ce que vous faites des puzzles 3D? Parce qu'en fait, j'ai quand même remarqué que les 3D, c'était beaucoup plus dur que les 2D. Et donc, c'est intéressant aussi intellectuellement d'aller...
On aimerait bien, mais en l'occurrence, ce n'est pas adapté à notre outil, puisqu'on a un outil qui est une scie à chantourner, donc c'est un matériel d'ébéniste. Donc vraiment, nous, on est dans l'univers de la 2D, avec tout le côté un peu intellectuel et artistique qui sort du 2D, on peut dire.
Vous avez aujourd'hui une quinzaine de salariés, c'est ça? Ça veut dire que vous avez réussi à maintenir aussi cette tradition, ce savoir-faire, toujours en Bourgogne?
Alors, c'est en Bourgogne et à Paris.
Et à Paris.
Ouais. La Bourgogne, c'est le pays d'origine. Oui. Et à Paris, en fait, on a trois boutiques qui sont des boutiques ateliers.
Avec la première boutique qui est restée aussi?
Oui, rue du Château, dans le 14e, qui est donc depuis 1975, ou peut-être un peu après, mais pas longtemps après. Donc, trois boutiques en tout qui sont des boutiques ateliers. Et j'insiste, c'est un point assez important. On voit la fabrication dans la boutique, donc les puzzles sont faits dans la boutique et donc ça renforce un peu le côté made in France parce qu'on le voit vraiment devant soi et on voit ce geste qui est vraiment notre particularité et c'est un savoir-faire qui est assez long à développer pour les personnes qui découpent.
La suite c'est quoi justement Julien? C'est le développement à l'étranger?
Le développement à l'étranger, oui, il y a des pays qui nous intéressent bien, donc en particulier il y a les États-Unis, forcément c'est un grand pays. Et qui sont très amateurs de puzzles, même si tous les pays du monde sont amateurs de puzzles. On a envie de partir et d'essayer de séduire plus d'Américains. on passe une grande étape chez nous, qui est on va traduire notre site web, donc pour avoir justement un site web bilingue, français-anglais. Donc on espère que ça permettra d'ouvrir quelques marchés.
Et je voudrais qu'on termine sur cette image. Je ne sais pas si vous la voyez, si vous nous suivez sur Europe1.fr, parce que c'est un des puzzles magnifiques hein, à découvrir, puzzle Michel Wilson. C'est un artiste contemporain, c'est ça ?
Ça, c'est Alain Thomas, c'est un artiste français qui est basé à Nantes et qui fait des images très colorées, naturalistes. Donc il aime beaucoup les toucans.
Voilà une des œuvres que vous pouvez découvrir dans la collection des puzzles Michel Wilson. Merci Julien d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Frédéric Mazella qui était notre coach. Nous on se dit à demain.
Raphaël.
Elisabeth, à demain Céline.
À demain, c'était Raphaël Duchemin.